Vous êtes sur RTL.
18h. Place à RTL Soir avec vous, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est parti, ça y est, pour deux heures d'infos avec vous, à vos côtés. Et à la une, les toutes dernières heures de campagne, le sprint final. Marine Le Pen au bord de l'eau, dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron dans les ruelles de Figeac, dans le Lot. Ultime déplacement, ultime bain de foule, ultime carte postale. Nous serons au plus près des prétendants à l'Elysée. Puis à 18h15, le dernier débat, face à face, programme contre programme. Amélie de Montchalin, ministre d'Emmanuel Macron, et Laurent Giacobelli, porte-parole de Marine Le Pen. Est-ce que le match est déjà plié? Est-ce que le débat a brouillé l'image du président? Quel message vont-ils envoyer ce soir aux électeurs insoumis? Confrontation dans un quart d'heure, match à vivre aussi, entre autres, bien entendu, dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Les insoumis, vous en parliez, que Jean-Luc Mélenchon espère voir gagner. Aux législatives, deux tiers des Français penchent d'ailleurs si Emmanuel Macron est réélu pour une cohabitation. Reportage auprès d'électeurs strasbourgeois à suivre. Des imprécisions, des contradictions, information RTL. C'est ainsi que la cour d'assises du Val-de-Marne a motivé aujourd'hui son verdict dans le procès en appel des policiers accusés de viol au 36 quai des Orfèvres. Ils ont été acquittés. Et puis, à l'heure des vacances, toutes les zones ce soir en congé, les places difficiles à trouver sur le Paris-Bordeaux. Les courses à Vincennes en nocturne. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 2, le 8, le 3, le 7, le 4, le 5 et le 10.
À 18h40, comme chaque vendredi, on va refaire nos régions, les 20 minutes sympas, positives, près de chez vous, le programme Marion.
Une opération, un vote, une saucisse offerte dans le Lot-et-Garonne, la guerre des poubelles en Auvergne, des macarons de Nancy et un vigneron exilé depuis la Champagne vers la Géorgie.
À 19h15, ils refont la France. Amandine Bégou et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le programme.
Eh bien, on va parler présidentiel, bien sûr. Et puis on parlera vacances, Marion le disait, trois zones en vacances ce soir. Alors, comment ça se passe les vacances chez nos voisins? Et est-ce que les vacances françaises sont-elles spécifiques? Y a-t-il des spécificités aux vacanciers français? On posera la question à nos correspondants.
On vous retrouve dans un peu plus d'une heure. Des points météo tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
La tendance pour demain?
Eh ben, on a eu pas mal de soleil aujourd'hui. Demain, c'est vraiment le contraire, complètement. Il va y avoir des orages partout et surtout dans le sud.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Dans 5h58, très précisément, la campagne pour le second tour sera officiellement bouclée. Et c'est donc sur de belles images que les candidats ont voulu terminer.
Et oui, dernier baiser de campagne, en quelque sorte. Envoyé du Lot par Emmanuel Macron, qui a tenu son dernier meeting à Figeac avec une ambition. Vincent Derosier, vous êtes sur place pour RTL. Finir en beauté dans tous les sens du terme.
Ben oui, exactement, vous l'avez dit, c'était d'abord une question d'image aujourd'hui, faire de belles images de fin de campagne, et pour ne pas se louper, bien les équipes d'Emmanuel Macron ont distribué des petits drapeaux français et européens aux milliers d'habitants venus l'écouter. Le président candidat, lui, n'a pris aucun risque, il a déroulé son programme comme d'habitude en insistant cette fois-ci sur la santé, le grand âge et l'écologie, et surtout, il a appelé une dernière fois à la mobilisation.
Rien n'est joué. Et donc ce que j'attends de vous, dans les heures et les jours qui viennent, et jusqu'à la dernière seconde, à les convaincre. Et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante de combat, de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe. Mais nous le ferons ensemble!
Voilà, vous entendez, on a presque retrouvé le président de 2017 avec son fameux « parce que c'est notre projet ». Mais manifestement, Emmanuel Macron a mûri, il a préféré garder un peu de voix pour s'adresser aux Français dimanche.
Vincent Derosier à Figeac pour RTL.
Alors, déplacement, carte postale, là aussi, pour Marine Le Pen, entre la Somme et le Pas-de-Calais. Vous l'avez suivi jusqu'en bord de mer à Berck pour RTL, Marie Mollet.
Oui, une promenade en bord de mer, des cerfs-volants et des baraques à frites. Marine Le Pen s'offre un interminable bain de foule avec ses militants. Photo souvenir, la candidate savoure.
À dimanche, hein.
Marie-Lou.
Surtout, sourire, faire bonne figure, alors que l'écart se creuse jour après jour dans les sondages. Après une journée où elle aura décliné les grands classiques de sa campagne, un tacle à Emmanuel Macron sur les retraites lancées sur un marché.
Il a confirmé donc la retraite à 65 ans. Les Français avec Emmanuel Macron vont donc en prendre pour perpète.
Une tentative pour rassurer encore jusqu'à la dernière minute lors d'une visite dans un centre de rééducation.
Il avait dit qu'il fallait renvoyer les migrants chez eux. Et s'ils sont handicapés ou amputés ou tétraplégiques, est-ce qu'on peut les renvoyer chez eux? Matériellement, c'est compliqué.
Humainement, c'est quand même difficile.
Merci.
Vous savez, toute la politique qu'on mène, c'est une politique humaine et de bon sens.
Dernière image d'une campagne de 8 mois. Marine Le Pen se perche à la portière de sa voiture. Merci, lance-t-elle à ses militants. Merci et à dimanche.
Marie Mollet à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour RTL.
Et alors même que l'on n'a pas encore voté pour le second tour, certains se projettent déjà sur la suite, sur les législatives. Insoumis, écolo et communistes discutent d'ailleurs et pourraient aboutir à un accord d'ici une dizaine de jours. Alors après avoir appelé les électeurs à l'élire Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon décidément s'y verrait bien. Il en a plaisanté tout à l'heure avec un ancien locataire de Matignon dans les allées de la Foire du Livre à Paris, en l'occurrence avec Édouard Philippe.
Avant, tu faisais de la littérature.
Ah ouais, bon, y a un moment où il faut quand même changer de style. Ça, c'est, on l'a écrit sur qu'est-ce que c'était que l'expérience à Matignon. Je pense qu'on va en offrir un à Monsieur Mélenchon.
Donc il y en a qui vont avoir du fil à retordre avec toi. Hein. Et je ne veux nommer personne.
Je voudrais pas annuler à la carrière de Monsieur Mélenchon.
Non, bah, moi, la mienne... Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais le meilleur de Clémenceau, c'est pas sa période anarchiste. Hein. Il avait 70 ans.
Jean-Luc Mélenchon à tu et à toi avec Édouard Philippe au micro RTL de Valentin Boissé, les électeurs mélenchonistes qui, en tout cas à 84% selon notre sondage BVA pour RTL, souhaitent si Emmanuel Macron est réélu qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée.
Et c'est le cas pour deux tiers des Français de manière générale. L'idée d'une cohabitation qui séduit d'ailleurs plutôt dans les rues de Strasbourg, ville écolo, qui a placé le candidat insoumis en tête au premier tour. Reportage RTL de Yannick Holland.
Émilien et Caroline ont voté Mélenchon au premier tour. Vote de conviction pour lui, vote utile pour elle. Et ces deux trentenaires iront voter dimanche avec déjà dans la tête les législatives.
On espère pouvoir faire un équilibre des pouvoirs aux prochaines élections pour que notre voix soit entendue quand même. C'est ce qu'on espère. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre.
Finalement, quand on regarde les périodes où ça a mieux fonctionné, c'est les périodes de cohabitation où du coup le partage des pouvoirs est assez clair. Et où on a aussi un Parlement qui ne se contente pas d'être une chambre d'enregistrement des désirs du président, mais qui fait vraiment son travail.
Frédéric et Judith, eux, sont plutôt centristes, écolos, et la cohabitation, ça dépend avec qui.
Si c'est pour nous mettre M. Mélenchon, non. Excusez-moi, mais bon, l'autocratie, je crois que c'est à l'Est, mais c'est encore pas en France. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient partager aussi le pouvoir dans le cadre d'une majorité présidentielle. Il peut y avoir des écologistes qui rentrent dans ce gouvernement.
S'il forme un gouvernement d'ouverture, il aura une majorité à l'Assemblée, ça me paraît évident.
Cohabitation ou majorité élargi, en tout cas, quel que soit le résultat du second tour, pour ces Strasbourgeois, il faudra faire preuve d'ouverture.
Yannick Holland pour RTL. Votre journal continue juste après ça sur RTL avec l'acquittement, aujourd'hui en appel, des policiers accusés de viol au 36 quai des Orfèvres. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
18h09, la suite de votre journal sur RTL. La cour d'assises du Val-de-Marne a donc rendu son verdict. Les deux policiers accusés du viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres en 2014 ont été acquittés.
Trois ans après avoir été condamnés à 7 ans de prison, ils ont été déclarés innocents à l'issue de leur procès en appel et ils sont donc sortis libres tout à l'heure, Cindy Hubert du palais de justice de Créteil.
Oui, à l'énoncé du verdict, la plaignante Emily Spanton quitte le tribunal. Elle court à perdre haleine, le corps qui tremble de sanglots. Des applaudissements retentissent dans la salle remplie de policiers venus soutenir leurs collègues. Les deux anciens de la BRI semblent mettre un moment à comprendre que c'est fini. Puis ils restent longtemps prostrés à l'entrée et pleurent de soulagement. Dès 2016 déjà, deux juges d'instruction avaient ordonné un non-lieu faute de charges suffisantes. Mais il y aura pourtant deux procès particulièrement violents. La défense n'hésitant pas à présenter la Canadienne comme une mythomane aux mœurs dissolues quand les policiers répétaient qu'ils ne l'avaient pas violée. Cet après-midi donc, la justice a décidé de les acquitter.
Cindy, c'est une info RTL. Vous avez pu lire les motivations de la cour d'assises. Sur quoi elle s'appuie pour acquitter les policiers?
Eh bien, les jurés se sont interrogés sur la fiabilité du témoignage de la victime. Ils pointent ses nombreuses inexactitudes, ses imprécisions, voire des mensonges.
Sur les faits, la plaignante a en effet beaucoup varié sur le nombre de policiers, sur les lieux, sur la scène. Trou de mémoire réel ou volontaire, se demande la Cour, ou bien est-ce une manière d'emporter la conviction en forçant le trait ? Enfin, les éléments techniques, la téléphonie, la vidéosurveillance, ne collent pas toujours avec ce qu'elle décrit, autrement dit une succession de multiples scènes sexuelles. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel. Les policiers ne l'ont d'ailleurs jamais nié. Mais ce soir, la Cour dit simplement qu'elle n'est pas capable de dire avec certitude qu'il y a eu viol, d'où ses acquittements. Le doute doit bénéficier aux accusés.
Cindy Hubert devant la Cour d'assises du Val-de-Marne pour RTL.
C'est un objectif qui a été clairement réaffirmé aujourd'hui par l'armée russe. Le contrôle total de la partie sud de l'Ukraine et du Donbass où les combats et de lourds bombardements se poursuivent selon le ministère britannique de la Défense.
Vincent Serrano, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine, précisément à Lozovaya. On est à la frontière vraiment du Donbass où vous avez rencontré un agriculteur qui, malgré la menace, tente tant bien que mal de maintenir son activité.
Et il suffit de voir Léonid au volant de son tracteur regarder constamment au-dessus de lui pour se rendre compte qu'une sortie dans son champ de tournesol n'a plus la même saveur depuis le début de la guerre. Régulièrement, on voit les roquettes passer au-dessus de nos champs à toute vitesse. On voit de la fumée ou des explosions au loin. Avant, on pouvait travailler 24 heures sur 24. Mais beaucoup d'entre nous refusent de travailler la nuit maintenant. C'est trop stressant. Sans compter les mines sur lesquelles ils pourraient rouler. Mais l'homme aux mains calleuses le répète à plusieurs reprises. C'est comme ça que je me bats pour mon pays. Le gouvernement refuse que l'on aille se battre sur le front parce qu'on est aussi important que les soldats. C'est une chose de tenir un fusil. C'en est une autre de conduire un tracteur. Mais à l'arrivée, c'est la même chose. On aide notre pays. J'évite que les gens meurent de faim avant les bombes. Et une terre qui pousse, ça donne toujours espoir. C'est pourquoi il est reparti sur son tracteur. Il n'arrêtera pas avant la tombée de la nuit. Son exploitation est gigantesque. 4700 hectares à quelques kilomètres à peine des bombardements.
L'espoir d'une terre qui pousse. Donc, reportage de Vincent Serrano et Jonathan Griveaux, envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
RTL Soir avec Julien Cellier.
18h13, toutes les zones sont en vacances à partir de ce soir, avec pour certains un appel de l'océan quelque peu contrarié.
Oui, et une ligne en particulier qui pose problème, la ligne entre Paris et Bordeaux, au-delà même de ses vacances. D'ailleurs, elle est aujourd'hui plus fréquentée sans que le nombre de trains ait été augmenté, et ça fait grogner les usagers, hein, Arnaud Touche.
Oui, comme Alan, chef d'entreprise, il utilise 2 à 3 fois par semaine cette ligne TGV, et trouver un billet relève parfois de l'exploit.
Le matin, il y a 3 trains. Donc soit on a de la chance, c'est le 6h46, et là, c'est plutôt pas mal. Et puis, si on a vraiment pas de chance, ils sont tous complets, on reste sur Paris.
Et Christian Broucaré de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports s'est saisi du sujet et affirme que la SNCF a tout simplement supprimé des TGV.
Même sur les directs où auparavant on en avait 18,5, on en a perdu 2 ou 3, ce qui fait que la SNCF, d'une certaine façon, a organisé la rareté et la cherté des billets.
Et la compagnie ferroviaire reconnaît une légère baisse des liaisons pendant la crise sanitaire, mais c'était temporaire, explique Franck Dubourdieu, directeur commercial de l'Axe Atlantique.
Depuis mars, on est revenu à une offre de 19 allers-retours rapides entre Paris et Bordeaux, avec des temps de parcours compris entre 2h04 et 2h20.
Alors que tout le monde se rassure, des TGV supplémentaires sont bien à l'étude et des renforcements auront lieu seulement d'ici l'été.
Explication d'Arnaud Touche pour RTL. Merci. Le coup double des Français au sommet. Romain Bardet a remporté aujourd'hui le Tour des Alpes et Thibaut Pinot s'est imposé sur la dernière étape à Linz en Autriche. Sa première victoire sur une course depuis 3 ans.
La fin de la malédiction. Merci. Exactement. Beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain, pour ce week-end. Valérie, bon bah ça se gâte. Hein.
Ouais, c'est pas fameux. Et surtout pour la journée de demain d'ailleurs. Les trois quarts sud du territoire vont avoir une journée très très orageuse, des orages très féroces entre le Languedoc, le sud du Massif central et les Alpes. Il y aura beaucoup de pluie, de très fortes rafales de Mistral et de Tramontane, et même de la neige en moyenne montagne sur les Pyrénées et à 1800 mètres pour les Alpes du Sud. Pour le reste du territoire, on va avoir des averses assez fréquentes, souvent orageuses, et finalement le soleil va se retrancher vraiment tout au nord, près des côtes de la Manche. C'est à peu près tout, même si on peut espérer quelques éclaircies entre la pointe bretonne, le bassin parisien et les Ardennes. Restent les températures demain. Elles seront encore stables, 10 degrés au réveil à Rennes et à Biarritz, 11 à Nevers et Lille. Dans l'après-midi, 15 degrés pour Bordeaux, 16 à Toulouse, 18 à Marseille, 19 à Nantes, 20 degrés à Grenoble, 21 à Lille et 22 degrés à Paris. Dimanche, ce sera un petit peu moins féroce. Il y aura encore des pluies, principalement dans la moitié sud, mais elles seront moins soutenues et il fera un peu plus frais.
Merci Valérie. Petite pause et puis la campagne se termine en quelque sorte sur RTL. Le dernier débat, face à face, programme contre programme, la ministre Amélie de Montchalin et le porte-parole de Marine Le Pen, Laurent Giacobelli. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de semaine avec RTL Soir. 18h18, J-2 avant le second tour. La campagne va se terminer dans moins de 6 heures maintenant. Et elle se termine sur RTL parce que le dernier débat, c'est maintenant. Pour vous aider peut-être à faire un choix si vous n'avez pas décidé. Face à face, programme contre programme. D'un côté, Amélie de Montchalin, ministre d'Emmanuel Macron, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonsoir.
Bonsoir.
Et de l'autre, Laurent Giacobelli, porte-parole de Marine Le Pen et du RN. Bonsoir.
Bonsoir.
Tiens, revenons sur les derniers efforts de vos candidats respectifs. Marine Le Pen était dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Elle a beaucoup insisté au fil des déambulations sur un point. Elle estime que le camp Macron la diabolise. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent Giacobelli ?
Oh, ça veut dire qu'après un premier tour, une campagne de premier tour où le président de la République est resté au chaud derrière les murs de l'Élysée, lorsqu'il s'est mis à sortir pour le deuxième tour, il a sorti l'artillerie lourde, les anathèmes, les insultes, les fausses nouvelles, tout pour attaquer Marine Le Pen, pour deux raisons. D'abord, pour ne pas présenter son bilan, hein, 600 milliards de dettes supplémentaires, un chômage à peine maîtrisé, les Français les plus défavorisés, même les classes moyennes qui souffrent aujourd'hui pour remplir leur caddie au supermarché. Donc tout ça, il n'avait pas tellement envie d'en parler, donc il a ressorti de vieilles lunes pour insulter Marine Le Pen, essayer de la diaboliser, en faire le grand méchant loup pour gouverner par la peur, comme il l'a fait pendant 5 ans, comme il l'a fait avec les gilets jaunes pendant la crise sanitaire. C'est sa seule arme, on dirait.
Amélie de Montchalin, derniers efforts pour votre candidat, le président à Figeac dans le Lot aujourd'hui. Il a effectivement pointé du doigt Marine Le Pen aujourd'hui. Il estime qu'elle a réussi, je le cite, à avancer masquée, c'est-à-dire...
On l'a vu pendant le débat, on l'a vu pendant des mois. Marine Le Pen nous a parlé de pouvoir d'achat. Elle a oublié de parler de ce qu'elle voulait faire sur la laïcité, sur la préférence nationale, sur toutes ces mesures qui veulent diviser les Français. Si vous regardez dans le détail, si vous tirez le fil sur l'Europe... sur cette idée donc de séparer, de diviser la société entre ceux qui auraient droit à certaines choses, ceux qui n'en auraient pas droit. Si vous regardez tout ce qui a été dit aussi sur l'immigration, sur la sécurité, eh bien on est revenu à ce qu'est la famille Le Pen depuis les années 70, depuis toutes ces élections présidentielles, avec les mêmes méthodes, faire croire qu'il y a un parti de l'étranger qui gouverne, nourrir d'ailleurs le débat de beaucoup de fausses informations, et au fond chercher à diviser les Français. Vous savez, j'ai passé la journée en Essonne, sur les marchés, en tractage, en porte-à-porte, toute la journée. J'ai rencontré ce matin sur le marché un certain nombre de femmes qui m'ont dit « voilà, nous on a peur. On a peur parce qu'on a peur de cette division. On a peur de la guerre civile, on a peur d'être pointé du doigt. On a peur alors qu'on est des citoyennes françaises. Et d'ailleurs, les citoyens français disent que tous, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur position sur beaucoup de sujets, ils veulent vivre de manière apaisée. Et cette peur-là, elle montre qu'avant même l'élection, eh bien, y a beaucoup de Français qui redoutent ce que serait eh bien, un pays gouverné par l'extrême droite.
Vous avez parlé du débat. Effectivement, on se pose la question de l'image des deux candidats. Au sortir de ce débat, on est 48 heures quasiment après cette confrontation. C'est cette image-là que vous retenez de votre candidate, Laurent Giacobelli ?
Non, mais je permettez-moi de sourire. On est à la radio, ça ne se voit probablement pas. Mais
on est filmé sur RTL.fr.
Vous avez prononcé 4 fois le mot peur. Donc quand je disais que vous vouliez gouverner en faisant peur, ben, vous voyez, vous venez de l'illustrer. Merci madame d'étayer mes propos. Moi, vous savez, je crois qu'on ne fait pas les mêmes marchés. Sur les marchés où je vais, les gens appellent la candidate Marine Le Pen Marine, parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a un espoir, et j'ai encore cette image d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, de cette femme qui l'a prise dans ses bras en pleurant, en disant sauvez-nous, aidez-nous, parce qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui travaillent mais qui ne peuvent plus vivre de leur travail. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, rentrent les yeux baissés parce qu'ils ont peur de se faire agresser lorsqu'ils rentrent dans leur barre d'immeuble. Il y a des Français qui ne reconnaissent plus leur pays, madame. Il y a des Français qui ont peur pour leurs enfants,
aussi,
qui ne peuvent pas
peur,
choisir leurs études, qui ne puissent pas demain rester dans notre pays pour travailler. Marine Le Pen a les solutions. Vous parliez de division, madame, mais vous êtes la représentante du candidat qui a mis la police contre les pompiers, la police contre les gilets jaunes, quitte à les attaquer frontalement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous. C'est vous, madame, qui avez divisé les Français, et vous dites que Marine Le Pen avance masquée, mais je crois que la folie du masque, elle a plutôt été de votre côté pendant ces 5 années. Alors, s'il vous plaît, un peu d'humilité, un peu moins d'arrogance, écoutez les Français, ils n'en peuvent plus de vous, et dimanche, ils auront l'occasion unique d'arrêter avec ce quinquennat de la violence.
Deux choses. Je vous laisse répondre, parce que c'est vrai que le terme arrogance, il a été prononcé à plusieurs reprises ces derniers jours par les militants, par les soutiens de Marine Le Pen depuis le débat.
Première chose. Pour moi, la plus grande des arrogances, c'est l'incompétence. C'est se présenter devant les Français avec des propositions.
Très dur avec Emmanuel Macron.
Avec des propositions pas chiffrées, pas précises, pas viables. C'est,
vous parlez de votre candidat, là, on est bien d'accord.
Non, je parle de Marine Le Pen.
Ah, excusez-moi, parce que la description était trompeuse.
Qui est arrivée devant les Français, qui s'est présentée pendant un débat, qui, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur l'économie, sur l'attractivité, sur l'Europe, sur des sujets essentiels à la vie des Français, n'était ni précise, ni claire, ni d'ailleurs capable d'expliquer comment elle allait s'y prendre. Et mais le président a passé tout le débat à démonter les fake news et les imprécisions.
Vous êtes étonnante quand même. Vous savez que tous les chiffres annoncés par le président ont été démentis, y compris par le journal Le Monde, dont on ne peut pas penser qu'il est l'organe officiel du Rassemblement National.
Si on regarde
sur la dette, sur le pouvoir d'achat, sur aussi d'ailleurs sur les éoliennes ou tout.
Il y a des chiffres qui ont été démentis des deux côtés.
Si je peux me permettre, si on regarde aujourd'hui la situation politique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'un côté un président qui a traversé des crises avec les Français, à nos côtés, pour nous protéger, et qui n'a pas arrêté d'ailleurs de transformer, de réformer, de continuer à investir pour nos enfants, pour l'avenir, en cherchant à nous unir. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il est à Figeac, et si hier il était à Saint-Denis, c'est parce que nous agissons pour tous les Français. Il n'y a pas d'un côté les banlieues sur lesquelles on ferait des choses, et puis la ruralité sur lesquelles on ne ferait rien.
Malheureusement.
Nous avons travaillé pour tous les Français dans tout le pays. Et de l'autre, je vois quoi ? Je vois une démagogue d'extrême droite qui fait mine d'écouter les Français.
Vous voyez, vous essayez de faire peur, parce qu'il y a rien d'extrême droite dans notre programme.
Qui fait le lit sur les crises, sur les peurs, sur les inquiétudes, et qui essaye au fond de présenter aux Français des solutions magiques. Il n'y a pas de solution magique, et surtout rien de ce que propose Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat. Parlons-en.
La baisse de la TVA à
0%. Le président l'a bien montré.
Sur
ses 100 produits.
Et de manière temporaire, tant que l'inflation est supérieure d'au moins un point à la croissance.
Et vous savez que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne s'appliquerait pas.
L'INSEE a montré ses chiffres. Là encore, le président a été démenti par les collègues de différents journaux. La prévision d'inflation est supérieure à 4%, donc plus d'un point au-dessus des prévisions de croissance.
Amélie de Montchalin,
TVA à 0%.
Essayez de vous écouter. Et le président vous écoutez parler, vous aurez l'occasion de répondre.
Vous et moi, je crois que nous gagnons notre vie et nous bénéficierons, si Mme Le Pen arrive à appliquer sa mesure, ce qui va prendre beaucoup de temps, de cette baisse de TVA sur les produits de première nécessité que vous décrivez. On n'a pas la liste, mais imaginons. Pourquoi on va dépenser de l'argent public, plutôt se priver de recettes publiques, de manière injuste, pour que des Français qui ont tout à fait les moyens de faire un effort, de contribuer évidemment à la société, alors que les plus modestes, eux, ne vont pas être ciblés. C'est pour ça qu'on veut faire un chèque inflation, qu'on veut faire un chèque alimentation, un chèque énergie ciblé sur les ménages qui en ont le plus besoin. Vous savez que les experts ont considéré que cette baisse de TVA sur l'alimentation, c'est 13 à 30 euros par ménage par an. Et tout le monde a bien compris que c'était beaucoup moins efficace que le bouclier tarifaire sur l'énergie.
Les experts dont vous parlez s'appellent Nicolas Bouzou. Il a présenté une étude d'un cabinet que personne ne connaît, sans étayer les chiffres. Nicolas Bouzou qui a appelé à voter, devinez pour qui, pour Emmanuel Macron. Moi aussi, j'ai des amis qui.
Mais vous faites la police de la pensée.
J'ai moi aussi des amis qui peuvent.
Ça veut dire qu'il y a
des
experts maintenant qui ont le droit de parler, donc on parlera de parler.
Je me permets de choisir avec qui je travaille, mais c'est vrai que vous avez une certaine largesse avec les cabinets de conseil. Je crois qu'on s'en sera aperçu. Pour dire la vérité, madame, aujourd'hui, le poids de la TVA. En pourcentage des revenus est double sur les foyers des classes les plus modestes et les classes moyennes que sur les foyers les plus riches. Donc notre mesure, elle est juste. Et puis, une mesure qui sert les classes moyennes, on ne va pas ne pas la prendre parce que quelques personnes qui gagnent bien leur vie en profiteraient aussi. Vous voyez, c'est la différence entre vous et nous. On ne fait pas des catégories de Français.
Je voudrais juste revenir sur les cabinets de conseil.
Tous les Français.
Je tiens à vous dire ici, très simplement,
et après
vous avez professé des fausses informations.
Madame Le Pen,
d'ailleurs, n'a pas osé en parler au président parce que sur les réseaux sociaux, le Front National diffuse toutes sortes de mensonges.
National, madame.
Toutes sortes de mensonges. Et vous le savez très bien, le milliard pour un cabinet de conseil qui a fait toute votre campagne était un mensonge, était une énormité. Et quand il s'agit
vous préparez votre
de
avenir,
déstabiliser...
Vous, lundi, vous serez directeur associé de McKinsey, c'est ça ?
Non, ça s'appelle une attaque personnelle, monsieur.
Non, c'est
et c'est pas la politique
que
nous menons.
Question, ce n'est pas
je tiens à vous dire que vous pose une question quand sérieuse. Un parti comme le vôtre désinforme les Français, veut déstabiliser l'État, pour moi ça ne s'appelle pas un débat politique.
Madame,
c'est très loin de ce que...
Non, non, c'est très important. Qui envoie en ce moment, avec l'argent de la campagne qui sera payée par la contribuable, un SMS à tous les Français pour affirmer que Marine Le Pen est climato-sceptique avec des faux programmes de Marine Le Pen?
Quand
nous avons déposé une plainte, madame, à la commission de surveillance des campagnes électorales. Vous utilisez des méthodes de barbouze et je paye mes mots. Je pèse mes mots.
Laurent Giacobelli, Amélie de Montchalin, on va marquer une petite pause, on va essayer de reprendre nos esprits, on va continuer ce débat de manière constructive juste après ça sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de semaine avec RTL Soir. On vous l'a dit, la campagne s'arrête dans 5h30, très précisément maintenant, J-2 avant le second tour. Le dernier débat, c'est sur RTL entre Amélie de Montchalin, ministre d'Emmanuel Macron, et Laurent Giacobelli, porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement National. On va reprendre ce débat. On évoquait les points important et notamment la question du pouvoir d'achat qui ont marqué la confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mercredi dernier. Il y a un autre moment qui a été marquant dans ce débat, c'est la question internationale, la question de la Russie. Laurent Giacobelli, Marine Le Pen avait tenu une conférence de presse peu avant sur l'international. Elle a été critiquée pour ses positions sur la Russie. Elle souhaite un rapprochement OTAN-Moscou à la fin de la guerre. Quand vous parlez à la Russie, vous parlez à votre banquier, a lancé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'elle ne parle pas à son banquier ?
Oui, je peux vous l'assurer. Je vais vous donner quelques faits. La banque avec laquelle nous avions contracté un emprunt en 2015 est une banque tchéco-russe. Le taux d'intérêt était de 6%, ce qui n'est pas un taux favorisé, je crois. Ce n'est pas un taux d'amis. Cette banque a fait faillite, comme quoi elle n'était pas aidée par le gouvernement ni tchèque ni russe. Mais moi, je vais vous dire... Si demain, une banque française nous appelle et rachète le crédit, nous y allons tout de suite, sans réfléchir. Parce que malheureusement, nous n'avons pas trouvé de banque française. Et malheureusement aussi, le président de la République avait promis cette banque de la démocratie pour que les partis politiques sérieux qui présentent des candidats aux élections puissent financer leur campagne avec des banques françaises et rembourser les intérêts et le capital parce que évidemment ils sont solvables et parce qu'ils sont remboursés de leur campagne. Ça n'a pas été fait. Ça a été une promesse en l'air. Et donc, on ne peut pas nous accuser à la fois de ne pas nous aider à avoir les fonds et de les chercher ailleurs. Et donc, je pense que là encore, il y a une part de fantasme, une part de mauvaise foi aussi. Et ce qu'a dit Marine Le Pen sur la Russie, c'est très simple, c'est qu'il y a la politique d'aujourd'hui et puis la réflexion pour la politique de demain. Aujourd'hui, bien sûr, il faut aider l'Ukraine, il faut protéger et défendre sa souveraineté, son indépendance des agressions et des crimes commis par la Russie. C'est une évidence. Mais demain, dans le monde multipolaire qui s'offre à nous, il faudra retravailler avec la Russie pour éviter que se forme un bloc sino-russe qui demain sera une contre-puissance qui, elle, serait plus dangereuse.
Amélie de Montchalin, est-ce que vous êtes convaincue par les arguments de Laurent Giacobelli?
Ce qui est évident, c'est que les députés Rassemblement National au Parlement européen n'ont pas voté les paquets de sanctions contre la Russie. Et ce qui est aussi une évidence, c'est que la meilleure manière... au fond, de plaire à M. Poutine, c'est d'avoir le programme de Marine Le Pen sur l'Europe. C'est une Europe affaiblie, c'est une Europe qui n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est une Europe où on ne paye pas la contribution qui ensuite revient, vous savez, dans la poche des agriculteurs français, dans la poche des entreprises françaises. Moi, j'ai été la ministre des Affaires européennes de Emmanuel Macron pendant un an et demi.
Je sais.
Je peux vous dire que faire avancer l'Europe, s'unir, mettre des pays d'accord sur des sujets aussi importants que la défense, que l'industrie, que l'agriculture, s'assurer que nous sommes plus forts parce que nous sommes 500 millions ensemble plutôt que 65 millions de Français à devoir parler seuls à des puissances qui, elles, sont des puissances hégémoniques et continentales, eh bien, le plus grand signe de votre faiblissement face à Vladimir Poutine, c'est que vous souhaitez une alliance des nations européennes qui n'existe que dans la tête de M. Orban, de Mme Le Pen et peut-être du Premier ministre polonais. Et je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, vous avez Olaf Scholz, vous avez Pedro Sanchez, vous avez des dirigeants européens, Monsieur Costa aussi, au Portugal, qui très clairement disent, nous sommes des sociodémocrates. Nous voyons l'Europe fonctionner. Et nous voyons que l'Europe avance grâce à la voix et à la vision du président Macron. Nous ne voulons pas et nous n'adhérons pas au projet de Mme Le Pen.
Merci de le dire. Vous savez, l'Union européenne, les Français le voient bien, ce sont les frontières passoires, c'est la hausse de l'immigration, c'est le non-contrôle sur ces sujets-là. Et puis vous disiez tout à l'heure que l'Union européenne nous a aidés et renvoie un certain nombre d'investissements en France, mais il y a des conditions à ces investissements. D'abord, on paye plus que ce qu'on ne reçoit. Et une des conditions, par exemple, ça a été de réformer le régime des retraites. Et moi, je suis heureux que le président Macron, qui est devenu candidat depuis, soit sorti du bois. Bois hier chez vos collègues de France Télévisions. La retraite à 65 ans avec 45 annuités, c'est ça que vous proposez aux Français? Vous proposez aux Français une vie de labeur avec la laisse et le collier pour finir à la retraite?
Je sais
malade.
Que monsieur Jacobelli, vous madame, aimez beaucoup les
madame,
slogans.
Madame, nous proposons la retraite pour les moins de 20, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans à 60 ans, 40 annuités, et les autres au maximum 62 ans, 42 ans.
Avec des pensions qui baisseront.
Vous avez une calculette à la place du cœur. Nous avons une vision fraternelle de la France. Mais madame, aimons les Français.
Vous savez,
nous ne les considérons pas comme vous, comme des gens inutiles quand ils sont étudiants ou retraités.
Ils ne sont pas du tout inutiles, on les forme.
Nous les considérons comme des frères et comme des sœurs qui méritent notre attention.
Amélie Nourchala,
vous parlez beaucoup de slogans, vous dites des choses qui sont tout à fait fausses sur notre projet, et vous dites des choses d'ailleurs qui sont fausses sur votre propre projet. Mais vous avez un slogan que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le fameux « si le peuple vote, le peuple gagne ». En fait, le vrai slogan, c'est « si le peuple vote Marine Le Pen, le peuple perd tout ». Parce qu'il perdra du pouvoir d'achat à la retraite.
Il a tout perdu, madame.
Il perdra du pouvoir d'achat au travail.
Il a tout perdu, il le sait.
Il perdra de l'influence dans le monde. Il perdra la sécurité. Il perdra la capacité à notamment travailler. Quand on fait reculer le chômage, quand on augmente la prime d'activité de 100 euros, quand on baisse la taxe d'habitation, quand on baisse les charges, quand on s'assure. Mais là,
de manière exponentielle.
Ce sont les maires. Qui,
évidemment,
à la main,
refiler la patate chaude.
Pas du tout, nous avons compensé à l'euro près la taxe d'habitation. Mais ces mesures de pouvoir d'achat, quand on fait le bouclier tarifaire, quand on veut faire le dividende salarié, quand on veut s'assurer que les comptes épargne-temps puissent être toute la vie portables, et
dans
surtout quel quand
monde
on veut.
Vivez-vous ?
Mais moi, je vis dans un monde, je vous
réel,
dis.
Réel ? Parce que vous savez que ceux qui nous écoutent savent que leur pouvoir d'achat a augmenté.
Un monde bien réel.
Ils savent que
et
quand ils travaillent, parfois, ils ne finissent pas la fin du mois.
Et les retraités savent très bien
que les retraités touchent moins aujourd'hui qu'ils ne touchaient il y a 5 ans.
S'il n'y a pas de travail en plus, il n'y a pas de retraite en plus. Les retraités savent très bien que si on veut assurer un minimum retraite à 1100 euros, il faut qu'il y ait plus de travail.
Madame,
les retraités savent très bien que nous allons augmenter les pensions.
Après ce quinquennat de violence, il faut un quinquennat de bon sens.
De 4% cet été.
Il faut dire au revoir à Emmanuel Macron.
Mais le bon sens de Marine Le Pen ne fonctionne pas. Il affaiblit, il appauvrit les Français.
Jamais la France n'a été aussi divisée. Jamais les Français n'ont été si malheureux. Il faut que ça cesse.
Et vous pensez que vos propositions vont unir les Français? Je crois exactement le contraire.
Oui, madame.
C'est la grande division et la grande confusion de
Marine Le Pen. Entre les Français.
Ce sera le mot de la fin, même si on a forcément réussi à vous entendre tous les deux sur cette fin de débat. Merci à vous tous les deux. Amélie de Montchalin, ministre des Emmanuel Macron et Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement National, d'avoir été ce soir nos invités dans RTL Soir, d'avoir participé à cet ultime débat à moins de 5h30 maintenant de la fin de la campagne, à deux jours du second tour de cette élection présidentielle. Merci à tous les deux. Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre. On va refaire nos régions, comme chaque vendredi, les 20 minutes près de chez vous avec l'opération Un vote, une grillade dans le Lot-et-Garonne. Vous n'y avez pas pensé à ça tous les deux, hein ? Ça fonctionne très bien.
Un vote, un sourire,
ça marche aussi. Avec la guerre des poubelles en Auvergne et un macaron très secret à Nancy. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.